juillet 2021, on a vu des rivières qui affichaient une santé écologique quasi parfaite déborder d'un coup et ravager la vallée de la Lesse.
Ouais, c'est...
Enfin, comment une eau qui est classée comme étant si pure a pu causer un tel niveau de destruction ?
C'est vraiment le paradoxe qui a forcé toute une région à regarder la réalité en face. En fait, la composition chimique d'une goutte d'eau, ça ne ralentit absolument pas sa force physique.
Ah oui, bien sûr.
Quand elle dévale une pente pendant une crue record, pure ou pas, ça tape très très fort.
C'est clair. Bienvenue dans cette nouvelle plongée en profondeur. Notre mission aujourd'hui, c'est d'extraire les pépites de récents rapports d'aménagement territorial wallon.
Tout à fait.
On va se pencher sur cette fameuse vallée de la Lesse avec la ligne de mire fixée sur 2030. Développons un peu ça, parce que c'est fascinant de voir comment une zone hyper rurale tente de se réinventer en pionnière du modèle Smart Village.
Et je suis persuadée que le premier obstacle sur leur route, en fait, c'est la géographie humaine elle-même. Les disparités sont juste énormes.
Ouais, l'hyper ruralité engendre une vraie fracture, c'est ça.
Exactement. D'un côté, on a une commune très isolée des services, comme Daverdis, qui perd à peu près 2,7% de sa population.
Ah, quand même.
Et de l'autre, juste à côté, la commune de Libin, qui explose avec une croissance de 21%.
21%, c'est énorme. En lisant les rapports, j'imaginais ça comme une balançoire complètement déséquilibrée.
C'est une très bonne image, ouais.
Ouais, comme un champ magnétique. L'autoroute E411, qui passe par Libin, agit comme un aimant géant. Ça aspire les habitants, les commerces, et les zones non connectées se vident de leur substance. Du coup, comment on empêche un côté de la balançoire de toucher le sol ?
Ce qui est fascinant ici, c'est que la solution de facilité, ça aurait été de laisser l'étalement urbain proliférer autour des routes.
Ouais, construire des pavillons partout ?
Voilà. Mais la stratégie locale prend le chemin inverse. Il mise sur la densification urbaine.
C'est-à-dire ?
Des villes comme Rochefort créent des points d'ancrage, elles recyclent d'anciennes friches industrielles et favorisent l'habitat mitoyen près des gares au lieu de s'étaler.
D'accord, donc en regroupant les infrastructures, on optimise l'espace et l'énergie.
C'est ça, on crée des noyaux de vie capables de rivaliser avec l'attractivité d'autoroutes.
Ce qui nous ramène directement à l'eau et à notre point de départ. Repenser l'espace terrestre, c'est bien, mais la nature finit toujours par réclamer son dû.
Ah, ça c'est indéniable. La géographie elle-même s'est rappelée à notre bon souvenir avec les crues.
J'ai vraiment été frappé par l'exemple de Gemelle dans le rapport. La ville a littéralement racheté des maisons sinistrées pour les détruire.
Sans aucun projet de reconstruction derrière, oui.
C'est fou, hein. En pleine crise du logement, pourquoi démolir pour laisser le terrain vide ?
Parce qu'ils ont compris la leçon des inondations. Si l'on relie ça à une vision plus large, une rivière a mécaniquement besoin d'un espace géomorphologique.
Une zone de respiration, quoi.
Exactement. Un espace de débordement pour dissiper l'énergie cinétique de l'eau. À Gemelle, on ne construit plus de murs en béton pour contraindre la rivière l'homme.
On accepte de reculer.
Voilà, l'espace libéré devient une zone d'expansion publique pour la rivière.
Sauf que, si l'on recule et qu'on laisse la nature reprendre ses droits, l'économie locale doit forcément encaisser un choc, non ?
Surtout que cette vallée dépendait énormément du tourisme de masse estival.
Ouais. Les chiffres montrent une chute libre. Moins 30% de nuitées à Téline depuis 2001. La météo devient trop imprévisible.
Mais cet effondrement, c'est justement le catalyseur de leur modèle Smart Village.
Alors un village intelligent, c'est pas juste du Wi-Fi et des capteurs partout.
Pas du tout. C'est créer des boucles locales pour se protéger des crises globales. Au lieu de dépendre de 2 mois d'été, la région investit massivement avec un projet européen de 13,8 millions d'euros.
Ah oui, pour restaurer les habitats et faire revenir le lynx et la loutre.
C'est ça, l'objectif c'est de lisser l'économie sur l'année avec un tourisme éco-responsable 4 saisons qui est beaucoup plus résilient.
J'aimerais qu'on s'arrête sur ce concept de boucle locale parce que ça s'applique aussi à l'agriculture. Le rapport mentionne la coopérative CoFarm.
Oui, un atelier de découpe multiviande.
En quoi l'ouverture d'une boucherie mutualisée, c'est une stratégie de résilience face au climat ?
Le lien est direct. Avant, un éleveur devait exporter ses bêtes sur pied très loin pour la transformation.
Il perdait de l'argent et dépendait d'intermédiaires, en fait.
Et de chaînes logistiques très complexes.
Avec cet atelier, on transforme et on vend sur place. La valeur ajoutée reste dans le village. On raccourcit la chaîne au maximum.
Pour ceux qui écoutent cette plongée en profondeur depuis un centre-ville dense, ça peut sembler lointain. Mais la démarche illustre une réalité universelle. Oui, transformer l'isolement en force.
Exactement, grâce au circuit court et à la mobilité partagée. Ce qui amène une réflexion fascinante, je trouve.
Je vous écoute.
La société imagine souvent la résilience climatique dans des mégalopoles futuristes blindées de technologies de pointe.
Avec des dômes climatisés ou des digues immenses, oui.
C'est ça. Mais quand on regarde l'ingéniosité de cette vallée, est-ce que le véritable modèle de l'innovation durable ne se trouverait pas plutôt, en silence, dans l'hyper-ruralité de nos campagnes ?